Stéphane Roux, 06 11 45 48 46. L'or de Blaise Cendrars. Chapitre 6. Sa première sortie à cheval a mené Sutter dans la vallée du Sacramento. L'incroyable fertilité du sol et la végétation luxuriante lui font choisir ses cantons. Au retour de cette randonnée, il apprend que le premier convoi de Canaques vient de débarquer. Il y en a 150, et ils sont installés dans le hameau de Yerba Buena, au fond de la baie de San Francisco. 19 blancs les accompagnent, des guélurons, solides et prêts à tout, embauchés par les associés d'Honolulu. Sutter les passe en revue, ils sont armés jusqu'aux dents. Aussitôt, Sutter fait le voyage de Monterrey. Il s'y rend par terre d'une traite, chevauchant jour et nuit. Johann Auguste Sutter se présente au gouverneur Alvarado. Il lui annonce qu'il a l'intention de s'établir dans le pays. Ses Canaques défricheront la terre. Sa petite troupe armée établira un cordon de surveillance pour empêcher les incursions des tribus complètement sauvages du Nord. Il a l'intention de réunir les anciens Indiens des missions, de leur distribuer des terres et de les faire travailler sous sa direction. « D'autres bateaux, dit-il, viendront encore d'Honolulu, où j'ai constitué une puissante compagnie. De nouveaux convois de Canaques débarqueront dans la baie que j'ai choisie, et des équipes d'hommes blancs arriveront encore, des hommes à ma solde. Laissez-moi faire, je me propose de relever le pays. »«
Et où voulez-vous vous établir ?» lui demande le gouverneur.
« Dans la vallée du Sacramento, à l'embouchure du Rio de los Americanos. »«
Comment appellerez-vous votre ranch ?»«
La Nouvelle Helvétie. »
Pourquoi ?
Je suis suisse et républicain.
Bon, faites ce que vous voulez. Je vous accorde une première concession de 10 ans.
Le Petit Prince d'Antoine de Saint-Exupéry. Lorsque j'avais 6 ans, j'ai vu une fois une magnifique image dans un livre sur la forêt vierge qui s'appelait Histoire vécue. Ça représentait un serpent boa qui avalait un fauve. On disait dans le livre, les serpents boas avalent leur proie tout entière sans la mâcher. Ensuite, ils ne peuvent plus bouger et ils dorment pendant les 6 mois de leur digestion. J'ai alors beaucoup réfléchi sur les aventures de la jungle et, à mon tour, j'ai réussi, avec un crayon de couleur, à tracer mon premier dessin, mon dessin numéro 1. J'ai montré mon chef-d'œuvre aux grandes personnes et je leur ai demandé si mon dessin leur faisait peur. Elles m'ont répondu « Pourquoi un chapeau ferait-il peur ? Mon dessin ne représentait pas un chapeau. Il représentait un serpent boa qui digérait un éléphant. J'ai alors dessiné l'intérieur du serpent boa, afin que les grandes personnes puissent comprendre. Elles ont toujours besoin d'explications. Les grandes personnes m'ont conseillé de laisser de côté les dessins de serpent boa, ouverts ou fermés, et de m'intéresser plutôt à la géographie, à l'histoire, au calcul et à la grammaire. J'ai ainsi vécu seul, sans personne avec qui parler véritablement, jusqu'à une panne dans le désert du Sahara, il y a 6 ans. Quelque chose s'était cassé dans mon moteur, et comme je n'avais avec moi ni mécanicien ni passager, je me préparais à essayer de réussir tout seul une réparation difficile. Le premier soir, je me suis donc endormi sur le sable à 1000 milles de toute terre habitée. J'étais bien plus isolé qu'un naufragé sur un radeau au milieu de l'océan. Alors vous imaginez ma surprise, au lever du jour, quand une drôle de petite voix m'a réveillé. Elle disait « S'il vous plaît, dessine-moi un mouton. »
Henri IV, le roi libre, de François Bayrou. Ce livre est dédié aux amoureux de la réconciliation. Il a été écrit pour eux dans les petits matins et les nuits avancées des deux pays, au pied des Pyrénées bleues et au bord de la Seine, où vécut Henri de Navarre et de France. Un homme masqué par sa légende. Château de Pau. Écailles de tortue. Chevauchés. Paysans aux pieds nus et paysannes séduites. Royauté. Vers galant. Sully. Labourage et pâturage. Poule au pot. Édit de Nantes. Barbe fleurie. Barbe de faune. Enfant sur son dos à 4 pattes. Le roi fait le cheval. Amour du peuple. Ravaillac. Tant d'images accumulées qui déclinent une légende. signant ainsi une des plus belles réussites historiques des siècles français. Mais la légende est aussi le plus redoutable obstacle à l'intelligence d'un homme et d'une situation, d'une histoire et d'une vie la plus improbable, la plus étrange, la plus utile. La légende nous dérobe le plus précieux. D'abord, la vérité historique dépouillée, l'événement, sa fraîcheur, son odeur et son bruit, sa surprise, sa chair. Elle nous empêche en même temps de suivre l'homme qui s'invente, celui qui ne sait pas qu'il sera roi de France, qui doute s'il réussira, qui hésite en avançant, ses angoisses et ses enthousiasmes, sa solitude et les passions, souveraines ou misérables, qui l'entraînent sur les chemins. À l'un des grands tournants qui ouvrent sur le monde moderne, Henri de Navarre éclaire et obscurcit à la fois la France qui l'entoure. Il éclaire parce qu'il rayonne avec une indépendance d'attitude et de comportement dont il nourrit de son vivant même sa légende en formation. Il obscurcit parce qu'omniprésent, il est devenu avec le temps évident et comme inévitable, ombre fleurie au-dessus des comportements, des drames et des haines du temps le plus noir de l'histoire de la France. Or, il n'était ni évident, ni inévitable. Si inattendu, au contraire, résultat de tant de hasard et de tant d'audace, qu'il est fascinant d'essayer de démêler les fils que la destinée a noués pour le constituer.
Victor Hugo, le mot.
Braves gens, prenez garde aux choses que vous dites. Tout peut sortir d'un mot qu'en passant vous perdites. Tout, la haine et le deuil. Et ne m'objectez pas que vos amis sont sûrs et que vous parlez bas. Écoutez bien ceci. Tête à tête, en pantoufles, porte close, chez vous, sans un témoin qui souffle, vous dites à l'oreille au plus mystérieux de vos amis de cœur, ou, si vous l'aimez mieux, vous murmurez tout seul, croyant presque vous taire, dans le fond d'une cave à 30 pieds sous terre, un mot désagréable à quelque individu. Ce mot, que vous croyez qu'on n'a pas entendu, que vous disiez si bas dans un lieu sourd et sombre, court, à peine lâché, part, bondit, sort de l'ombre. Tenez, il est dehors, il connaît son chemin, il marche, il a 2 pieds, un bâton à la main, de bons souliers ferrés, un passeport en règle, au besoin il prendrait des ailes comme l'aigle. Il vous échappe, il fuit, rien ne l'arrêtera. Il suit le quai, franchit la place, etc., passe l'eau sans bateau dans la saison des crues et va tout à travers un dédale de rue droit chez le citoyen dont vous avez parlé. Il sait le numéro, l'étage, il a la clé. Il monte l'escalier, ouvre la porte, passe, entre, arrive et, railleur, regardant l'homme en face, dit « Me voilà, je sors de la bouche d'un tel. » Et c'est fait, vous avez un ennemi mortel.